Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire des Restos du Cœur. Je vais vous raconter comment Coluche les a inventés ici, à Europe 1, en 1985, en utilisant bien entendu les archives sonores de cette époque. Et en vous signalant au passage la sortie d'un numéro exceptionnel du magazine Légende, dont nous sommes partenaires, consacré à Coluche, avec des photos magnifiques. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Avant de vous raconter l'histoire des restos, il faut que je replace tout ça dans son contexte. 1985, Mitterrand est au pouvoir depuis 4 ans et le résultat n'est pas fameux. 2 millions de chômeurs. Et d'ailleurs, dans quelques mois, les Français vont envoyer balader la gauche. Et Chirac sera nommé Premier ministre de Mitterrand. Vous situez ? Pardon pour les marmots, hein, mais les vieux savent de quoi je parle. Et c'est dans ces eaux-là qu'on se met à parler de nouveaux pauvres. Autrement dit, des chômeurs en fin de droit. On dit qu'en France, en 1985, 600 000 personnes ne mangent pas à leur faim.
Misère, misère ! C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément.
Misère. Et voilà que Coluche s'empare du sujet. Remarquez, ce n'est pas la première fois qu'il vient sur le terrain de la politique. Hein. Il a été candidat à la dernière élection présidentielle. Enfin, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a renoncé quand il atteignait tout de même 11% dans les sondages. 11%, ça n'est pas rien. Il y a perdu des plumes hein, dans cette aventure politique. Sa carrière en a pris un coup. Mais les gens lui ont pardonné. Il l'adore, bien au-delà de ses 11%. Il l'aime pour son culot et aussi pour son air bonasse. On dirait bien se coller avec lui à un comptoir et commander 2 Sauvignons et l'écouter raconter la France.
Et dès que je reçois la location tous les mois, je vais m'acheter Modes et Travaux. Parce que dans Modes et Travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur.
Un jour de février 1985, le jour du paiement du tiers provisionnel des impôts, il est 17h et Coluche est en train de goûter. Chocolat chaud et tartine. Il est avec son secrétaire et son ami, Jean-Michel Vagelzi. Oh, regarde ce que je paye d'impôts. 3 millions de francs. Imagine que tous les mecs comme moi qui ont du blé s'y mettent. Bah, on pourrait donner à bouffer à tous ceux qui n'ont plus rien. Et là, il se tourne vers Anita, sa cuisinière, qui s'affaire dans la cuisine.
Dis Anita, un repas, là. Ça coûte combien ?
Bah, monsieur Coluche, je dirais à peu près 15 francs.
Et là, il se met à faire des calculs.
Alors, 15 francs, multiplié par, disons, 200 000 personnes qui crèvent de faim. Ben, ça fait 3 millions. C'est possible de trouver 3 millions, non ?
Et là, il se met à faire un dessin sur une feuille de papier. Il dessine un plateau, style plateau d'avion, et il dessine aussi de la viande, des légumes, un dessert. Et une assiette et des couverts.
Bah, tu vois, ça pourrait ressembler à ça, quoi.
Me dit Michel, c'est pas évident de se lancer là-dedans.
Bah, écoute, j'aimerais quand même que tu te renseignes là-dessus.
Vagelzi se renseigne dès le lendemain. Il appelle de sa part des médias, des entreprises agroalimentaires. Et c'est peu dire que ça ne suscite pas un enthousiasme débordant, hein. C'est trop tôt. Son image est encore ternie par l'aventure présidentielle. Et donc, dans l'immédiat, les choses en restent là pendant plusieurs mois. En vérité, à cette époque-là, Coluche est en dépression. Un burn-out, comme on dit aujourd'hui. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Bref. 10 fois, il a pensé à se flinguer. Même ses gosses, il ne les supporte plus. Et à côté, ce qui n'arrange rien, il picole et il consomme toutes sortes de produits. Il dira plus tard, j'ai mis le nez dedans et puis après j'ai mis la tête et j'en ai eu plein les oreilles. Sachez-le ça, le pédo et la coco, ça n'est pas du tout bon pour les dépressifs. Et puis les mois passent et Coluche va mieux. Et d'ailleurs, Europe 1 vient de lui confier une nouvelle émission. Ça s'appellera « Il y en aura pour tout le monde ».
Bon ben, les vacances sont finies. Hein. Elles m'ont fait du bien. Je sens que je vais me remettre au boulot.
Pour sa première émission à Europe 1, en septembre 1985, Coluche fait installer un énorme tas de sable dans la rue François 1er. On est obligé de boucher la rue. L'idée est d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont été privés de bord de mer cet été. Et donc il fait installer des chaises longues, des parasols. Et lui, il est là en short, avec un bob vissé sur la tête. Et c'est parti. Générique. En parallèle, Coluche rejoint la bande des Chanteurs sans frontières qui se mobilisent pour l'Éthiopie. Vous vous souvenez de cette rengaine ?
Ils n'ont jamais vu la pluie, ils ne savent même plus sourire, il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie embarqués sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame. Attendre le vent. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues.
Et là, Coluche reçoit des centaines de lettres qui disent tout à peu près ceci. C'est bien beau de vouloir aider la terre entière, mais faudrait peut-être commencer par s'occuper de nos chômeurs. Et là lui revient l'idée des restaurants, des repas gratuits pour l'hiver, pour ceux qui n'ont pas de quoi bouffer. Et le 26 septembre 1985, sur l'antenne d'Europe 1, bah ça donne ça.
Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait... un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement.
Et après, il faut bien s'organiser. Et donc, il crée une association. Il en est le président. Et son éternel complice, Jean-Michel Vagelzi, en est le secrétaire général. Et après, se pose la question du nom. Et là, il y a Aldo, un des co-animateurs de son émission sur Europe 1, qui dit
« Bah, pourquoi on n'appellerait pas les cantines du cœur ?»
Ouais, pas mal. Mais Paul Lederman, le producteur de Coluche, n'est pas très emballé.
Cantine, c'est trop misérabiliste, quoi. Faudrait quelque chose comme... Les restaurants du cœur, tiens. C'est bon, ça, hein ? Les restaurants du cœur.
Et à partir du moment où l'idée est lancée, ça change complètement le ton de l'émission sur Europe 1. Il y a moins de vannes. C'est plus sérieux.
Je suis parti de l'idée qu'après le gala qu'on avait fait pour l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit ici en disant « Mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur puisque vous faites si bien à l'extérieur ?» Et on s'est dit effectivement, d'abord ça correspond à une grande demande, d'autre part c'est une très bonne idée. Voyons si on pourrait pas faire des restaurants gratuits. C'est un gros boulot, c'est une énorme entreprise. On va faire appel à tous les bénévolats.
Et dès les premiers jours, le standard d'Europe 1 explose.
Salut, enfoiré.
Salut.
Et bonjour à toute ton équipe.
Bonjour.
Je te téléphone pour t'annoncer une grande soirée dansante au profit des Restos du Cœur. Au Dancing Bagatelle, rond-point des Bruyères à Rouen, le vendredi 21 mars à 22h. Tout le personnel du Dancing Bagatelle et l'orchestre Rémi Bernard participeront bénévolement à ce grand bal. Bien sûr, tu souhaites comme moi que ça marche à fond. Alors, fais-nous un sacré coup de pub dans ta radio.
Et à Europe 1, les patrons, là, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce raffut ? Philippe Gildas, le directeur, est à fond derrière Coluche. Il veut coller à son époque. C'est une belle occasion. Mais à part ça, pour être honnête, il y a aussi à Europe 1 quelques rabat-joie qui n'approuvent pas la démarche. C'est du tapage, c'est des magots, c'est Coluche qui se tire du col. Et aussi, sans doute, c'est un peu gaucho, hein ? Bref. Quoi qu'il en soit, Gildas offre à Coluche une émission tout entière consacrée à son projet de Resto du Cœur, le 14 décembre 1985.
Bonjour Coluche.
Bonjour, alors ça va ?
Ça va bien, bon, ouais. Ça va, cette heure-ci, ça va doucement. Mais il y a combien de temps que tu as lancé l'idée de...
Oh, je sais pas, il y a quoi, 2 mois, hein ?
Il y a plein de gens en France qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et c'est désolant. Avec le nombre d'auditeurs qu'on sait pouvoir toucher avec cette radio, normalement, ça devrait nous permettre de récupérer 1 milliard de centimes et donc de nourrir 1 million de personnes rien qu'avec cette matinée.
Alors je vous l'ai dit, tout au long de cette matinée, énormément de vedettes vont passer ou bien nous appeler au téléphone, parce que c'est vrai qu'à 6h25, juste avant de prendre la route, ils peuvent se contenter de nous appeler au téléphone. Je crois qu'on a déjà quelqu'un en ligne.
C'est Mireille Mathieu qui vous parle. Je suis ravie de pouvoir vous parler parce que je sais que je compte sur vous, sur votre générosité. Vous savez, notre ami Coluche a une idée formidable, les restaurants du cœur. C'est une chose extraordinaire parce que vous savez, en période de Noël, surtout en période de Noël, il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de manger. Et vous savez, ils ont besoin de notre générosité.
Dans la foulée, Coluche, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, appelle Jacques Attali, le sherpa du président Mitterrand.
J'ai besoin d'aide, monsieur Attali. Je voudrais notamment pouvoir utiliser les stocks agricoles de Bruxelles.
Écoutez, Michel, je vais en parler au ministre de l'Agriculture. Henri Nallet, je vous rappelle.
Là, il faut que je vous explique ce que sont ces stocks agricoles. Il s'agit de lait et de beurre que la communauté européenne stocke pour éviter l'effondrement des prix et qu'elle finit en général par détruire. Comme promis par Attali, Coluche obtient un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture. Et vous n'allez pas le croire. Il arrive dans son bureau, il s'assoit face à lui et il dégaine un gros pétard, un joint énorme, qu'il allume.
Ça vous dérange pas, j'espère? Bah, c'est de l'herbe. Bah, on sait ce que c'est l'herbe au ministère de l'Agriculture, non?
Bon, le ministre est socialiste, il arrive tout droit de mai 68, il en a vu d'autres. Et ensuite, dans un nuage de bœufs, Coluche lui présente son projet, avec passion.
Bah, je veux créer des sortes de supermarchés, quoi. Mais gratuits, hein, qui ouvriraient l'hiver pendant 3 mois. Si vous pouvez nous aider, pour qu'on ait accès au stock de Bruxelles.
Henri Nallet écoute avec attention. Ça lui plaît bien. L'idée est bonne. Mais il trouve que Coluche aborde tout ça avec un peu d'amateurisme.
Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider à gérer tout ça. Vous allez brasser beaucoup d'argent. Hein. Il vous faut un gars sérieux. Hein.
Le quelqu'un s'appelle Paul Houdard. Et Nallet va plus loin. Il trouve aussi un QG pour les restos dans la tour Montparnasse, s'il vous plaît. Et il débloque une grosse subvention en guise de cagnotte de départ. Et il lui promet de s'intéresser au problème des excédents alimentaires. On parle rarement du rôle d'Henri Nallet dans cette affaire. Que justice lui soit rendue. Et la machine se met en marche. Et c'est un succès. Tous les jours, les auditeurs d'Europe 1 envoient des dons. Il y en a même qui viennent directement rue François 1er apporter leur contribution. Il y a des prostituées de la rue Saint-Denis qui ont fait une collecte. Bon, ben maintenant, faut organiser tout ça. Le défi, c'est de créer un réseau pour acheminer la nourriture dans les régions. Et c'est là qu'entre en scène Alexandre Lederman. C'est le fils de Paul, le manager de Coluche. Il est étudiant à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Lui et ses copains vont s'occuper de la logistique. En moins d'un mois, ils parviennent à monter un réseau de 22 écoles de commerce. Des comités régionaux et locaux se mettent en place. Des équipes de marketing téléphonique, des lieux de stockage, de distribution. La machine est lancée. Le premier resto est inauguré à Lille le 9 novembre 1985. Et Coluche est là avec toute sa bande de la radio. Il a invité le maire de Lille, Pierre Mauroy, ancien premier ministre, ancien premier sinistre, comme il disait à l'époque.
Monsieur Mauroy, on a besoin des services municipaux, on a besoin de locaux. Il y aura un local dans lequel on va stocker la nourriture, et puis on la distribuera aux gens qui passeront. Donc tout ça du 21 décembre jusqu'au 21 mars. Quoi. On espère distribuer 200 000 repas par jour en France. C'est l'ambition, quoi.
Mais je vous trouve grave sur ce sujet-là.
Ouais, c'est
hein.
Ça, ouais.
J'ai l'habitude de vous entendre raconter des histoires, mais là, ça fait déjà au moins 5 minutes que nous parlons, peut-être 10 minutes.
J'en connais plusieurs, d'ailleurs. Je vous parle...
Mais Coluche n'est pas pleinement serein. Il a peur de manquer d'argent. Et c'est là que lui vient l'idée d'enregistrer une sorte d'hymne des restos. Et d'emblée, un nom s'impose. Jean-Jacques Goldman, évidemment. Après un de ses concerts, Coluche va le voir dans sa loge.
Ben, tu vois, il nous faudrait une chanson pour les restos du cœur. Hein. Un truc qui cartonne, quoi. Tu sais faire ça, non? Ben oui, Michel, bien sûr. Mais pour quand? Ben, pour la semaine prochaine.
Une semaine plus tard, Goldman apporte une cassette à Coluche, qui choisit des vedettes pour chanter le futur tube des restos. Platini, Montand, Deneuve, Michel Drucker.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit.
Et dans la foulée a lieu la fameuse émission du 14 décembre 85 sur Europe 1, du matin jusqu'au soir. À 6h du matin, Philippe Gildas, Maryse et Coluche prennent l'antenne.
Si vous voulez envoyer de l'argent, s'il vous plaît, 50 francs minimum, c'est à la fois où on peut ou on peut pas. Hein, c'est vrai, oui. Si on peut pas, eh bien, au contraire, on viendra trouver de l'aide, voilà. et ce coup de cœur dans les restaurants de Coluche. Mais si vous pouvez, 50 francs, c'est déjà bien. Plus, c'est encore mieux. Et il faut l'envoyer par chèque, donc, au restaurant du cœur. Il n'y a pas de...
Toutes les 10 minutes, Coluche fait un point sur l'argent collecté. Et dans le hall d'Europe 1, c'est un défilé. Un môme qui vient vider sa tirelire. Et puis des célébrités qui viennent déposer leurs chèques. Michel Sardou, par exemple.
J'ai pas mon carnet de chèques, tu veux combien de sous?
Y a pas de chiffre, c'est toi qui décides.
Bon, je te file 10 briques.
Bon, écoute.
Oh,
ça baigne, 10 briques?
Les enchères sont hautes.
Voilà.
Ah, merci, alors là, au nom de mes camarades. Oh,
À 13h, il y a déjà 300 000 francs. Et à la fin de la journée, 5 millions de francs. Et une semaine plus tard, le 21 décembre, ouvre le premier resto du cœur de la région parisienne, à Gennevilliers, dans le 92.
Ça va les garçons?
Un peu froid, mais...
C'est quoi ta télé?
Restaurant du cœur, une première. Pas une minute à perdre. Dans quelques heures, 600 repas gratuits vont être distribués à Gennevilliers, au nord de Paris, sous un chapiteau. Au menu, friand, steak haché, pommes de terre, gâteau, orangeade.
Le premier à se présenter est un monsieur tout endimanché, avec sa femme et son enfant.
Ben, j'ai faim, quoi. J'ai un métier, hein, mais j'ai pas de travail.
Le principe est simple. Coluche dit que c'est la forme la plus humaine qu'il ait trouvée. Celui qui vient passe devant le comptoir, il dit ce qu'il veut, autant qu'il veut, y compris pour sa voisine. Et personne ne lui demande de vérification. Il ramène tout chez lui. Et il n'est pas obligé de dire qu'on le lui a donné. Il peut dire que ça vient de prise unique. Bon, pour être honnête, ce premier jour est un peu poussif. On ne se bouscule pas au portillon. Il n'y a pas autant de monde que prévu. Et pourtant, on est à la veille de Noël et il y a du foie gras. Mais les musulmans n'en veulent pas.
Mais enfin, monsieur, il n'y a pas de porc dedans, je vous le dis. C'est du canard.
Alors avec ce foie gras, les bénévoles finissent par se faire un casse-croûte très confortant. Les journalistes grincheux, on n'en manque jamais, parlent de fiasco. Patience, patience. Ça prend du temps, le temps du bouche à oreille. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, le 3 janvier, le resto de Gennevilliers a distribué 60 000 repas. Et la Coluche se dit, faut passer à la vitesse supérieure. Il veut atteindre un objectif de 200 000 repas par jour. Alors il va voir TF1, qui lui propose une émission spéciale le 26 janvier 1986. L'émission de TF1 permet de récolter, écoutez bien, 26 millions de francs. Et à cette occasion, Coluche lance une idée. Une loi qui permettra de déduire les dons au resto de ses impôts. Il faudra encore 2 ans après sa mort pour qu'elle soit votée. Mais maintenant, ça y est, les restos ont assez d'argent pour boucler la première saison. Et quand la première campagne s'achève, à la fin de l'hiver 1986, ils ont servi 8,5 millions de repas. Coluche et son équipe se réunissent une dernière fois dans le bureau de la Tour Montparnasse. Et là, il se tourne vers son gestionnaire, Paul Oudard.
« Dis-moi, il reste combien dans les caisses ?»«
Ben, 1,5 million, pourquoi ?»«
Ben, fais un chèque à l'ordre de l'abbé Pierre. »
Mais 3 mois plus tard, le 19 juin 1986...
Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans, il nous a fait rire. Ce soir, on pleure.
Coluche est mort, mais son œuvre va se poursuivre. Les Restos du Cœur inventés un après-midi de septembre 85 sur Europe 1 collectent désormais plus de 100 millions d'euros. Ils accueillent près de 900 000 personnes. Ils distribuent plus de 130 millions de repas dans près de 2000 centres et antennes, animés par près de 75 000 bénévoles.
Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant, demain et maintenant, hier et maintenant, entend les battements, enfoiré maintenant. Allez, 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 enfoiré maintenant. Allez, 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 enfoiré maintenant.
Je te tiens, tu me tiens. Celui qui donne a raison. Je te tiens par la main. Ce soir on est à la maison.
Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.